Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Dans ce podcast, je donne la parole à des profs passionnés qui nous racontent comment le yoga transforme notre quotidien, notre rapport au corps ou notre santé. Déborah est prof de yoga et sophrologue et elle est elle-même atteinte d'endométriose. J'avais donc envie de parler avec elle de comment le yoga l'aide à gérer ses douleurs et son quotidien avec la maladie. Dans cet épisode, elle donne plein d'astuces aux personnes qui sont concernées, que ce soit des postures et des respirations qui font du bien, ou des conseils plus globaux sur l'hygiène de vie et la prise en charge médicale. J'en profite pour faire un gros bisou à toutes les femmes et les jeunes femmes de mon entourage qui sont touchées par cette maladie. J'espère que cet épisode les aidera aussi. Bonne écoute! Salut Déborah, merci beaucoup de prendre le temps de parler avec moi de ce sujet de l'endométriose que tu connais bien. J'aimerais peut-être d'abord pour commencer que tu nous racontes un peu ton parcours à toi et notamment avec la maladie. Quand est-ce que tu as su en fait que tu souffrais d'endométriose ?
Salut Laura, merci de me recevoir sur ton podcast. Alors moi ça a été diagnostiqué on va dire officiellement en mars 2021. Donc c'est assez récent, ça fait un an et demi que le diagnostic a été posé. Mais en fait, j'ai eu des menstruations très précoces, hein, dès l'âge de 9 ans, et ça a toujours été douloureux. Donc moi, je n'ai jamais connu un cycle menstruel sans douleur. Ça s'est, on va dire, durci en 2017. Alors il y a eu tout un changement environnemental en plus, et pas mal de stress, je pense, qui ont accentué les symptômes. Et en fait, j'en étais au point où je vomissais hein, pendant mes règles, puisque c'était très douloureux. Et donc, comme on en parlait de plus en plus de l'endométriose, j'ai été prendre un rendez-vous chez un gynéco. Et je l'ai un peu forcée parce qu'elle m'a sorti le classique. Mais mademoiselle, vous savez que les règles, c'est douloureux. C'est pas parce que vous avez des règles douloureuses que vous avez de l'endométriose. Et je lui ai dit, écoutez, c'est 70€ la consultation, je vous paye, faites-moi une écho pelvienne et puis on s'en assure.
Ah ouais, donc voilà, tu as eu le parcours classique avec un peu l'errance médicale, les médecins qui mettent pas du tout de mots là-dessus, qui te disent, bon, c'est des douleurs classiques, c'est normal, c'est fou.
C'est ça. Oui, et puis ce qui paraît encore plus fou, alors, sans cliché ni stéréotype, hein, parce que justement, après, mon médecin était un gynéco homme, donc j'ai changé après l'avoir vu elle. Donc là, c'était une femme. Donc je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi, t'es une femme, un petit peu de solidarité, tu sais. Ouais. Et en fait, donc elle a un peu rechigné, mais bon, elle l'a fait quand même. Et à l'écho, on a très bien vu que c'était une endométriose. Donc elle m'a cru et elle a demandé une IRM pelvienne pour confirmer le diagnostic après. Et donc, j'ai changé de gynécologue parce que moi, je fonctionne un petit peu au feeling et je pense que quand on a une pathologie compliquée, c'est bien de sentir qu'on a un médecin qui est compréhensif au minimum. Hein. Et j'ai changé justement pour un homme et qui lui a été génial. Et depuis que je recommande à toutes les personnes qui me disent qu'elles pensent qu'elles ont une endométriose et qui sont ravies de son suivi.
Voilà. D'accord. Alors toi, j'imagine que tu as pensé que c'était ça et que tu as osé du coup demander à ta gynécologue de faire les examens nécessaires parce que tu en avais entendu parler à la télé, etc. C'est vrai qu'heureusement, on en parle quand même de plus en plus aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut juste rappeler du coup en quelques mots peut-être ce qu'on sait aujourd'hui de cette maladie pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas trop en détail ?
Oui, alors ce qu'on connaît de l'endométriose, c'est surtout les symptômes. Bien évidemment, c'est une maladie qui touche les femmes, hein, parce que c'est lié avec les menstruations. Donc, au niveau des symptômes de l'endométriose, on a tout ce qui va avoir les douleurs des règles, hein, qu'on appelle les dysménorrhées, donc les douleurs au bas-ventre, dans le bas du dos, etc. Il va y avoir des douleurs aussi pendant les rapports sexuels, donc ce qu'on appelle des dyspanuries. Moi, dans mon cas, j'avais des douleurs urinaires aussi. Donc, ça veut dire que quand j'allais uriner, ça me faisait mal. Il y a aussi toute la problématique des troubles intestinaux. Donc le ventre gonflé, les ballonnements, problèmes de constipation pour aller à la selle. Les douleurs pelviennes, donc les crampes menstruelles et les douleurs aux ovaires aussi, parce que ça peut entraîner des kystes, hein, l'endométriose. La fatigue chronique, les douleurs dans le dos et c'est une des premières causes d'infertilité. Et ça, tu en as parlé dans l'épisode avec Charlotte sur le yoga des hormones. Donc ça, c'est au niveau des symptômes. Après, ce qui est inconnue à l'heure d'aujourd'hui, ou en tout cas la recherche pousse de plus en plus, c'est vraiment de comprendre l'origine de la maladie. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore très clair. Il y a des origines qui seraient à la fois génétiques. On parle beaucoup aussi des conditions environnementales et notamment tout ce qui est perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver dans les plastiques et qui vont altérer en fait les hormones. Et il y a le facteur stress aussi qui va venir aggraver en tout cas les symptômes. Quand on est stressé, on a encore plus mal. Donc c'est vraiment ça. Ça, c'est pour la partie endométriose, on va dire classique. Et donc cette maladie, c'est vraiment une maladie que j'appelle invasive, dans le sens où c'est l'endomètre qui est au niveau de la paroi utérine, qui au lieu de s'écouler naturellement, s'évacuer, qui remonte. Mais ça peut être tout à fait normal et le système immunitaire en fait va s'attaquer à ces cellules. Et puis dans certains cas, il ne fait pas son travail correctement. Et en fait, les cellules de l'endomètre viennent se poser sur des organes périphériques qui sont les ovaires, la vessie, le rectum. Ça peut aller jusque dans les intestins, voire les poumons dans certains cas. Et il y a l'autre version qui s'appelle l'adénomyose, où là, je compare toujours l'utérus comme un gruyère, où en fait, c'est l'endomètre qui va se mettre dans la paroi utérine. Et là, ça cause des saignements qui sont très, très abondants, donc les règles hémorragiques.
Écoute, merci beaucoup pour cet éclairage-là. Comme ça, on voit bien aussi de quoi on va parler. Alors évidemment, vu que ce podcast il est autour du yoga, on va bien sûr parler de yoga. Toi, tu es prof. À quel moment, en fait, le yoga est entré dans ta vie et comment ça s'est articulé avec cette endométriose? Est-ce que tu as tout de suite pu faire un lien entre les deux? Est-ce que tu t'es dit, je vais me mettre au yoga justement parce que ça va me faire du bien, parce que je souffre, etc. Ça peut m'aider? Ou pas du tout, c'est deux choses qui se sont rejointes un peu par la suite?
Alors, c'est deux choses qui se sont rejointes par la suite. Alors, moi, j'ai commencé le yoga en Belgique en 2011, puisque j'ai vécu en Belgique pendant quelques années. Et en fait, c'était suite à une rupture. Donc, c'était plus parce que j'avais besoin de me faire du bien au moral, en fait. Et c'est une amie qui m'a emmenée à mes premiers cours. C'était du vinyasa et du yin à l'époque. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que ça me faisait vraiment du bien au moral, mais aussi dans mon corps. Et en fait, le lien avec mes douleurs menstruelles s'est fait beaucoup plus tard. Comme je t'ai dit, c'est en 2017 où vraiment les symptômes se sont aggravés. Et là, j'ai commencé à faire un lien parce que j'ai repris en plus une pratique de yoga beaucoup plus régulière. Je me suis formée entre 2017 et 2018 au yoga, donc il n'y a jamais de hasard. Et c'est là où j'ai vu que j'avais quand même moins mal quand je pratiquais, que je pouvais gérer un peu mieux ma douleur. Et que je pouvais avoir vraiment des postures qui me faisaient du bien et qui permettaient aussi de calmer mon système nerveux, parce que le facteur stress est hyper important dans le cadre de cette pathologie.
Oui, c'est intéressant. On va détailler justement tout ça, un peu comment le yoga peut jouer un rôle, comment il peut aider, accompagner quand on souffre d'endométriose sur différents aspects. Et est-ce que toi, du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose... Donc, tu t'appuies sur ton expérience personnelle. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en pratique pour proposer aujourd'hui des cours spéciaux, vraiment à destination de femmes qui souffrent d'endométriose?
Alors, je suis en train de les développer, justement. Donc, ça, c'est chouette qu'on puisse en discuter. Parce que je me suis formée au yoga de la fertilité il y a quelques mois. Et tu vois, là, je suis en train de créer un programme en ligne justement pour le yoga et l'endométriose. Et je vais en proposer également en présentiel. Donc moi, j'habite dans le 04, dans les Alpes de Haute-Provence, à côté de Manosque. Et je vais en proposer aussi parce qu'il y a énormément, en fait, que ce soit des coachs sportifs ou d'autres profs qui me contactent en me disant « Ah ben tiens, j'ai une de mes élèves ou une de mes clientes qui souffre d'endométriose, est-ce qu'elle peut te contacter, etc. etc. » Donc il y a vraiment un petit réseau qui se crée autour de ça.
Alors toi, du coup, en te basant sur ton expérience, et puis j'imagine que tu t'es peut-être un peu aussi penchée sur la question, voir s'il y avait des recherches qui existaient ou des expériences, des choses comme ça. Au niveau physiologique, est-ce que tu sais donc quels sont les effets qui sont observés ou démontrés, par exemple sur l'intensité des douleurs? Est-ce qu'il y a eu des études sur ça, sur la pratique du yoga et l'intensité des douleurs, ou est-ce que ça s'appuie juste sur ton expérience? Et toi, comment tu as l'impression que le yoga t'a aidé en ce qui concerne les douleurs?
Alors, il n'y a pas d'études, on va dire, médicales sur le yoga et l'endométriose. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'endométriose est un sujet d'actualité et national depuis janvier 2022, donc qui est reconnu comme affection de longue durée depuis janvier 2022 grâce au gouvernement. n'y a pas d'études cliniques là-dessus comme il y a pu en avoir pour le yoga et la fertilité. Donc c'est plutôt sur base de mon expérience, de mon ressenti et aussi, je pense, de discussion parce que, en fait, on parle d'endométriose, mais c'est plutôt des endométrioses parce que chaque ressenti va être différent pour chaque femme. Et donc, l'adaptation, en fait, des postures, il va y avoir des postures classiques, hein, tout ce qui va être lié à la mobilité du bassin, soulager les douleurs dans le dos, etc. Mais je pense que le ressenti est différent parce qu'il y a des femmes qui souffrent d'endométriose et qui n'ont absolument aucun symptôme. Ça, il faut le savoir aussi.
Et est-ce que donc de ton expérience, il y a des postures, des pratiques par exemple qui vont te faire plus de bien ou qui vont être de manière générale plus recommandées que d'autres quand on souffre d'endométriose? Parce que j'imagine peut-être qu'on ne peut pas aussi faire n'importe quoi en yoga et que certaines pratiques peuvent au contraire peut-être aggraver les douleurs.
Oui, alors on ne peut pas faire n'importe quoi. Je dirais que la première chose, c'est comme c'est une pathologie qui est liée au cycle menstruel, ben c'est déjà de bien connaître son cycle menstruel et aussi de comprendre ben, comment on fonctionne, quel est notre ressenti par rapport à ce cycle. Donc, ce qui va jouer de façon très importante, c'est ben, pendant la phase des menstruations, clairement, c'est une maladie qui nous met à plat, hein, surtout si on a de l'adénomyose et donc on souffre de règles hémorragiques. Donc ben là, tout ce qui va être inversion à proscrire. Et puis, de toute façon, comme on est hyper fatigué, ça va être plutôt des pratiques comme du yin yoga, des postures de yoga restauratif, quelque chose de très lent, de très doux, d'un peu cocon, où on peut utiliser un bolster, une couverture, tu vois, qui va être un peu englobante. Donc, ça va être plutôt ce genre de choses. Quand on est en
phase... Donc s'écouter dans la phase de douleur, et ça c'est valable aussi, parce que je sais que beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose, du coup, sont sous pilule, parce que ça aide à limiter un peu les symptômes, l'intensité.
Ouais.
Donc ce sera valable aussi dans ce cas-là, en tout cas pendant la période de règles, ou de manière générale pendant la période où on ressent des douleurs plus intenses, s'écouter, aller vers une pratique plus douce, éviter des postures trop exigeantes, peut-être exigeantes au niveau des abdominaux aussi, enfin du bas-ventre.
Tout à fait exigeante au niveau des abdominaux, exigeante au niveau de l'intensité, donc clairement une pratique d'ashtanga. Tu vois, enfin moi je vais pas du tout le conseiller à quelqu'un qui a des douleurs et qui est en phase d'inflammation. Enfin, et je pense que de toute façon, naturellement, on n'ira pas vers ça. Hein. Je rappelle, hein, le yoga, c'est pas de la performance. Et je pense que c'est ça aussi la beauté de la pratique, c'est qu'il y a tellement de variétés de yoga qu'on peut tout à fait aller vers une pratique qui nous correspond dans l'état d'énergie et de sensibilité, on va dire, dans lequel on est.
Et dans une approche voilà, plutôt douce, plutôt yin yoga, est-ce qu'il y a des postures qui, toi, te paraissent particulièrement bénéfiques, qui te font un bien fou quand tu es vraiment en poussée inflammatoire?
Oui, alors moi, il y a la posture de l'enfant qui est supportée par un bolster. Ça me fait beaucoup de bien parce qu'en fait, j'ai le ventre qui est au contact du bolster. Donc, mine de rien, en fait, la compression du ventre par le bolster et le fait que je place ma respiration, ça me fait un petit massage. Ça permet aussi de venir un peu étirer tout le dos parce que j'ai mal au dos quand je suis en crise. Et cette posture aussi, ce qui est chouette, c'est que tu peux mettre la bouillotte et notre ami quand on a des douleurs. Donc, tu peux mettre la bouillotte du coup dans le bas du dos et ça, c'est très agréable.
D'accord, et oui, et puis j'imagine que tu restes assez longtemps du coup ouais. dans cette posture-là, tant que ça fait du bien.
Voilà, c'est ça, tant que la bouillotte est chaude et qu'on n'a pas de soucis au niveau des coups de pied, parce que c'est quand même une posture où on ramène du poids au niveau des talons, donc il faut aussi pouvoir la supporter, mais je dirais que voilà, tant que ça reste quelque chose qui est agréable, on y reste autant qu'on en veut. Il y a la posture aussi donc du papillon, donc Supta Baddha Konasana, où on a les plantes de pied qui se rapprochent et on a les genoux en ouverture, où là, pareil, on peut se mettre du coup un peu plus sur le dos, mais avec le bolster, un peu comme en restauratif, où tu sais, le bolster est contre un mur ou contre des briques, et on est incliné. Et du coup, là, on peut mettre la bouillotte sur le ventre pour les personnes qui ont vraiment mal au ventre. Et pareil, ça va venir étirer, relâcher tous les muscles au niveau du pli de laine. Ça permet de respirer dans le ventre, toujours d'avoir ce côté soutenant et qui est apaisant aussi.
D'accord. Donc ça, oui, ça c'est pour la phase plutôt de règles ou en tout cas ouais. Là où l'intensité de la douleur est à son maximum. Et est-ce que du coup, le reste du temps, le reste du cycle, tu as une pratique différente et voilà, qu'est-ce que tu vas privilégier ?
Alors oui, après quand il n'y a pas de douleur, tout ce qui est... j'ai envie de dire, les personnes peuvent revenir à une pratique classique dans ce qu'elles font. Moi, je sais qu'il y a aussi des douleurs, comme j'ai un kyste aux ovaires, j'ai des douleurs au moment de l'ovulation. Et donc, j'ai mon ventre qui va être aussi ballonné à ce moment-là. Alors, ça n'a rien à voir avec les douleurs lors des menstruations. Mais par exemple, toutes les postures qui vont faire du bien, ça va être les postures de la fente basse, des postures où voilà, je vais pouvoir ramener de la mobilité au niveau du bassin, venir étirer en fait aussi toute cette zone au niveau des flancs pour voilà, ramener de la mobilité et sentir que je crée de l'espace au niveau de cette zone. Il y a aussi tout ce qui est la respiration du Noli, donc qu'on appelle aussi chez Bernadette de Gasquet la fausse inspiration thoracique, où là, pour le ventre ballonné, ben, c'est aussi agréable parce que ben, ça permet d'atténuer les ballonnements. Vu qu'on crée une dépression au niveau des organes, ça permet aussi de soulager au niveau du bas du dos et de faire un massage dans les organes aussi. Donc ça, c'est
D'accord, tu peux la rappeler cette respiration, en quoi ça consiste?
Oui, donc ben, c'est on inspire par le nez pleinement et puis ensuite on a une expiration alors par le nez ou la bouche, hein, c'est vraiment une expiration par contre qui est complète, qui est profonde. Et puis à la fin de l'expiration, on va venir bloquer. Faire une rétention et imaginer qu'on avale pardon de sa salive ou qu'on veut inspirer de l'air mais sans en inspirer. Et donc là, ben, du coup, il y a une dépression qui se crée au niveau du ventre où on sent que ben, les organes viennent se plaquer près de la colonne vertébrale. Donc on peut rester juste comme ça quelques instants et puis ensuite reprendre une inspiration et puis recommencer quelques fois.
D'accord, ça donc particulièrement bien quand on est en situation plutôt de ballonnement, ventre gonflé.
Exactement. Et donc on peut la faire ben pour les personnes qui n'ont jamais expérimenté, c'est une posture qui peut se faire sur le dos avec les talons près des fesses. On peut la faire au bureau quand ben on sent qu'on a un petit peu mal assis, incliné au niveau du bureau, puisqu'on travaille quand même aussi même quand on n'est pas bien. Donc c'est des postures enfin c'est une respiration qu'on peut emmener un petit peu partout avec soi et qui est assez facile à faire et qui moi je sais me soulage en tout cas beaucoup.
Et est-ce que, alors, parce que j'imagine qu'effectivement, la pratique va être très dépendante des douleurs de chacune, puisque
Oui.
l'endométriose peut causer des douleurs finalement très variées. Mais est-ce que de manière générale, il y a des postures qui sont plutôt déconseillées, voire interdites, ou qui sont pas favorables, je pense à certains sauts, à des choses comme ça, qui peuvent peut-être réactiver des douleurs chez certaines femmes?
Je dirais pas qu'il y a de posture défavorable, c'est vraiment adapter en fait sa pratique à vraiment nos ressentis et à la phase d'inflammation. Après, il n'y a pas tant de postures déconseillées que ça. Je dirais, voilà, les seules postures pour moi, c'est vraiment en phase de menstruation, quand on a vraiment des saignements hémorragiques. Mais sinon, il n'y a pas de postures qui sont déconseillées. C'est s'écouter au maximum et sentir que ben, quand on ne peut pas le faire, on ne le fait pas et ce n'est pas grave.
Et tu parlais de postures comme la fente basse qui travaille sur la mobilité du
Ouais,
bassin.
oui.
Qu'est-ce que ça apporte justement de travailler sur ça, sur la mobilité du bassin, l'ouverture des hanches peut-être? En quoi ça peut aider?
Bah, en quoi ça peut aider, c'est que du coup on va avoir pas mal d'adhérences en fait qui se donc toutes ces cellules endométriales donc qui viennent se déposer en dehors de l'utérus et donc bah, du coup on va venir mobiliser en fait toute cette zone et donc bah, ramener de la mobilité au niveau des adhérences. Donc si on voit les adhérences comme une espèce de petits amas cellulaires qui viennent se coller sur les tissus conjonctifs, sur les ligaments, etc. Bah finalement, de pouvoir ramener de la mobilité, ça fait que le tissu reste, on va dire, mobile et étiré et va pas se bloquer ou se congestionner. Moi, je sais que j'ai souvent cette sensation, c'est que j'ai l'impression que tout est qu'un seul bloc et que je dois ramener du mouvement pour sentir que ça se libère et que ça vient atténuer un petit peu aussi cette inflammation à ce moment-là.
Ah oui, c'est intéressant. Alors, co comment tu fais? Est-ce que tu peux nous détailler un ou deux exemples de mouvements, de postures qui aident à ressentir, voilà, qu'on gagne plus de mobilité dans cette zone?
Ouais, bah au niveau de la fente basse, hein, tout simplement de ne pas rester en statique, mais de ramener un petit peu les fesses en arrière, puis de ramener un petit peu le bassin, donc au niveau du pubis vers le sol et légèrement vers l'avant. Donc de le faire en mouvement, en ayant la conscience du souffle, hein, d'essayer d'avoir un souffle qui est assez bas. Aussi de pouvoir peut-être placer une main sur le ventre, donc en fonction de ses possibilités, mais de sentir voilà, qu'on vient vraiment respirer dans cette zone du ventre, voire du bas-ventre. Moi, je sais que je la fais aussi, alors je l'appelle avec mes élèves la posture de Jack Sparrow, qui est toujours la fente basse, mais sauf que cette fois-ci, la jambe qui est derrière, tu viens tourner le pied de façon à ce qu'il se retrouve du même côté que le pied de devant. Et donc, ça te permet d'avoir une ouverture un peu comme un guerrier 2 au niveau vraiment du bassin. Donc, les deux jambes sont en ouverture. Et là, même chose, de faire des mouvements de va-et-vient pour venir mobiliser toute la zone.
Si je comprends bien, en fait, ça fait comme un guerrier 2, mais avec le genou au sol.
Avec le genou au sol, tout à fait. Et donc, si en imaginant que tu as le pied gauche devant, ben, tu as ton genou droit en fait, qui est aligné avec ton talon gauche à peu près, et le pied droit qui est vers le bord extérieur gauche du tapis. Ce qui fait que tu as une ouverture comme dans un guerrier au niveau du bassin. Ça fait beaucoup de bien parce que tu viens ouvrir en fait, l'avant du corps, tu viens bouger en même temps le bassin en même temps, donc ça c'est chouette. Et puis tu pourrais tirer un petit peu les flancs, tu peux juste venir poser, si on parle du pied gauche devant, poser la main gauche au sol et venir faire une torsion toujours ouverte, surtout s'il y a des ventres gonflés, donc une torsion ouverte, donc le bras droit monte vers le ciel, et là du coup t'as quelque chose qui est assez agréable, qui est assez spacieux, qui permet au corps de respirer, et là on respire aussi dans le ventre, donc c'est vraiment super chouette comme genre de posture. Bien évidemment à faire des deux côtés, et comme posture que moi j'aime bien, qui est un peu plus fine mais qui me fait du bien aussi, c'est le pont supporté, où tu viens placer un bolster en fait, donc tu pars dans un demi-pont, tu viens placer le bolster au niveau de la zone du sacrum, et tu peux relâcher en fait le bassin sur le bolster et venir tendre les jambes. Mais là c'est pareil, tu as tout un étirement au niveau de la face avant du bassin qui est assez intéressante.
Oui, avec la respiration dans le ventre aussi, voilà. J'imagine qu'il va faire du bien.
Tout à fait. Donc là, tu peux placer une respiration complète pour venir placer le système, calmer le système nerveux, placer les mains sur le ventre pour bien sentir cette respiration qui se fait ici. C'est une légère inversion, donc vraiment très très légère, qui n'est pas du tout dérangeante dans ce sens-là, mais qui vient vraiment ouvrir tout l'avant et qui est très agréable. Et en dernier lieu, donc hors phase de règles, de pouvoir faire aussi Viparita Karani, donc d'avoir les pieds contre le mur pour venir complètement relâcher le système nerveux et encore une fois avoir quelque chose où on est en contact, où on est ancré et on peut se relâcher.
D'accord, donc ça c'est juste on s'allonge avec les fesses contre le mur et les jambes à la verticale contre le mur, c'est ça?
Tout à fait, voilà. Et pareil, bras sur le ventre, on peut le faire avec une légère inversion aussi, on peut mettre un bolster en fait contre le mur et venir placer les fesses sur le bolster, ça c'est aussi possible, mais on peut le faire complètement classiquement, juste les fesses contre le mur et puis les pieds sur le mur. On peut le faire avec une chaise aussi, ça c'est aussi possible de le faire avec une chaise.
Ah oui, en mettant ses mollets en fait
sur la chaise, voilà.
D'accord. Et tu parlais de torsion ouverte tout à l'heure. Est-ce que justement, par rapport aux torsions, tu as des recommandations, peut-être là aussi selon la phase du cycle, est-ce peut-être certaines phases où les torsions un peu trop intenses sont à éviter ou au contraire, elles vont faire du bien?
Oui, alors les torsions, d'une façon générale, ça fait pas de... Je dirais pas que ça fait de mal. Au contraire, ça vient vraiment soulager le dos. Hein, donc pour tout ce qui est douleur de dos, c'est intéressant. Ça vient aussi de toute façon... On parle toujours des torsions en disant que ça vient essorer. Ça procure un massage aussi aux organes. Donc c'est pas... moi, je suis fan des torsions. Ça me fait beaucoup de bien. Et donc, je vais toujours les conseiller. Voilà, sauf que quand j'ai le ventre ballonné... en fonction de où est-ce que j'en suis dans mon cycle, je sais que c'est quelque chose que je ne vais pas supporter de faire une torsion fermée. Donc là, je vais faire une torsion ouverte parce qu'en termes de mobilité de la colonne vertébrale, alors c'est sûr que ça ne sera peut-être pas aussi intense qu'une torsion fermée, mais ça vient quand même me soulager au niveau du dos et ça permet de ne pas avoir le ventre qui est compressé.
Alors, tu en as parlé au début, c'est vrai que tu évoquais le fait que dans l'endométriose, les symptômes vont aussi être beaucoup liés au stress, que leur intensité peut augmenter si on traverse une période de stress, etc. Donc, j'imagine que peut-être toi, le yoga t'a apporté à ce niveau-là. Est-ce que tu as observé ça, que finalement, ça t'a aussi aidé par une meilleure gestion du stress ou peut-être de certaines émotions qui se répercutent de façon favorable sur tes symptômes d'endométriose?
Oui, complètement. Ben, la puissance du yoga, c'est les ressentis corporels, mais aussi les ressentis émotionnels. Alors, je suis sophrologue aussi, je me suis formée en sophrologie également, donc j'ai encore un outil supplémentaire. Et c'est vrai que... voilà, il y a des moments où je sens que ça va pas et je me dis non mais en fait là c'est parce que tu es trop stressée et je le vois directement, l'impact il est direct sur le cycle qui suit, c'est des règles qui sont encore plus hémorragiques, encore plus douloureuses, et là je sais que c'est entre guillemets, c'est la sanction. Donc, si j'ai pas ma pratique de yoga, si j'ai pas une pratique, enfin, moi, j'habite à côté des collines, donc je vais marcher ou nager, c'est des choses qui me permettent de m'apaiser ou simplement de faire comprendre aussi aux personnes qui sont autour de moi que voilà, que j'ai besoin de calme, que je m'isole un petit peu et de savoir vraiment poser ses limites et de dire qu'on n'est pas en capacité de... Et je pense que le yoga, dans son état d'esprit, en tout cas, c'est quand on est sur les tapis et qu'on n'arrive pas à faire certaines postures, de toute façon, le corps dit stop. Et donc là, c'est un peu la même chose, c'est de se dire, il faut que moi, j'arrive à dire stop et à trouver quelque chose qui va être beaucoup plus apaisant pour moi. Et par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages de femmes qui ont dû quitter leur emploi parce que trop stressant et donc, sanction directe sur la pathologie derrière.
Ouais, donc toutes les méthodes de gestion du stress, évidemment, vont être bonnes à prendre. Oui. Enfin, tout ce qui peut t'aider à réguler ça, que ce soit effectivement le yoga, la sophrologie ou d'autres méthodes de relaxation qu'on peut trouver.
Tout à fait.
Et c'est vrai que l'endométriose, c'est une maladie qui impacte énormément la qualité de vie, oui, le quotidien, le rapport à son corps aussi, quand on a un corps qui est douloureux et... pour beaucoup de femmes, notamment depuis l'enfance, l'adolescence. Est-ce que tu as l'impression que le yoga, ça va aider aussi justement à développer un autre rapport à son corps qui serait plus seulement dans la douleur, qui peut être une forme de réconciliation, hein, quand on perçoit son corps comme quelque chose d'uniquement douloureux? Tu penses qu'il y a un travail à faire là-dessus aussi?
Oui, complètement, complètement. Et ça, c'est juste... là où le yoga m'a beaucoup aidée, c'est... En fait, je faisais une espèce de dissociation et tu sais, comme tu sais, quand tu as mal quelque part ou que tu veux pas de quelque chose, tu dis non, mais ça m'appartient pas, c'est pas à l'intérieur de moi. Et donc, je pense que je voyais toute ma zone utérine et des organes reproducteurs comme quelque chose, tu sais, qui est pas bien et qui est toujours un peu comme une boule noire, tu vois. Et je pense que le yoga m'a permis ça et c'est marrant parce que j'ai fait un workshop avec Mathieu Boldron et qui a dit très justement, il y a pas pendant le workshop, le yoga est là quand ça va pas. Et ça, c'est vrai. C'est le rapport au corps. On se rend compte quand on fait du yoga qu'on a un corps qui est incroyable et que même quand ça va pas, on est capable de faire des choses à notre rythme, à notre façon, en adaptant, mais qu'on est quand même capable de faire des choses, qu'il y a tout un tas d'autres choses qui fonctionnent et que oui, la douleur est présente et qu'il faut, je ne dis pas qu'il faut accepter la douleur, mais en tout cas, il faut être conscient qu'on peut la gérer du mieux qu'on peut et qu'on fait du mieux qu'on peut chaque jour. Et je pense que ça, c'est le plus important et le yoga nous enseigne vraiment beaucoup ça. Et je pense au yama et au niyama où il y a ce principe de ahimsa, vraiment de non-violence et d'être vraiment bienveillante avec nous-mêmes.
Ouais, et tu parlais de boules noires pour cette zone de l'utérus, de tout le bas-ventre qui est extrêmement douloureux et qu'on aurait tendance à, juste vouloir que ça s'arrête, fuir cette zone, vouloir l'oublier.
Oui.
Et c'est vrai qu'en yoga, on nous dit parfois, même quand il y a une sensation un peu intense, un peu douloureuse, on va plutôt essayer de rester avec que de chercher à fuir. Alors ça c'est la théorie, hein, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire quand tu as une douleur très intense. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu as appris à faire, c'est-à-dire à même... quand tu ressens une douleur vive, rester dans cette zone, tu pourrais nous l'expliquer mieux que moi.
Oui, oui, complètement. C'est, ça fait partie de la phase d'acceptation. Hein. C'est de se dire que de toute façon, c'est là et que c'est triste, mais c'est là. Et tu vois, par rapport à l'outil qu'est la méditation aussi, j'avais mon enseignant de méditation qui disait on peut méditer sur ses pensées. On peut méditer sur sa douleur, en fait. Étrangement, la douleur devienne un espèce d'objet de méditation. Et encore une fois, en utilisant le souffle, en ramenant son attention dessus, on peut l'accepter. Je ne dis pas que c'est facile tout le temps, mais on peut l'accepter. On peut faire aussi des visualisations, donc avec la sophrologie, on peut faire une visualisation. Donc, moi, je dis souvent de choisir une couleur qui ramène de la chaleur. Les visualisations avec les couleurs fonctionnent bien et donc de choisir une couleur qui nous fait du bien, qui ramène de la chaleur, qui ramène de la douceur et de venir en plaçant ses mains sur le bas-ventre, de placer cette couleur au niveau de notre zone et de sentir toute la chaleur qui vient se diffuser, toute la douceur qu'on peut placer dedans pour l'accepter.
Oui, ça c'est un exercice qui est effectivement qui est intéressant, qui est beaucoup utilisé en hypnothérapie, quand on fait de l'hypnose pour contrôler les douleurs, justement. Il
Oui.
paraît que ça marche très bien, effectivement.
Voilà. Parce que ça reste. Pour moi, j'enseigne le yoga prénatal et c'est comme pour la préparation, tu vois, à l'accouchement. C'est quand tu as des contractions au moment pour le travail, pour l'ouverture du col, c'est des signaux en fait que notre corps nous envoie. Hein, la douleur, c'est de se dire, ben, moi, je dis toujours, en fait, quand on a mal, déjà, c'est qu'on est vivant et c'est que notre organe, il est là et c'est aussi un organe qui est en souffrance. Hein, donc, le rejeter, en fait, ça va pas nous aider, quoi. Il faut ramener, voilà, de la douceur.
Et puis à travers un petit peu cette réconciliation avec le corps
Oui.
qui peut se faire au fur et à mesure, notamment grâce au yoga, j'imagine que ça va aider par rapport aux difficultés dans la sexualité aussi qui sont inhérentes à cette maladie, puisque évidemment, ça peut, enfin voilà, quand c'est douloureux très souvent, ça peut générer des blocages ou tout
Oui.
simplement tu n'as plus envie, etc. Est-ce que dans ton cas ou dans les femmes que tu connais qui souffrent d'endométriose et qui font aussi du yoga, est-ce que ça a pu être une aide aussi à ce niveau-là? Il y a eu un changement au fil de la pratique?
Oui, parce que la reconnexion au corps, hein, dans la sexualité, de toute façon, c'est quelque chose qui est très important. Et la communication, de savoir dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, de savoir dire le moment où on est prête, le moment où on est OK avec notre corps, ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, de pouvoir communiquer en fait aussi par rapport aux limites, hein, quand on a de la dyspareunie, de pouvoir communiquer auprès de notre partenaire au niveau des limites, en disant, ben, ça c'est quelque chose qui est possible, ça c'est quelque chose qui est pas possible parce que trop douloureux, et les relations sexuelles doivent rester quand même quelque chose qui nous font plaisir et qui nous font du bien. Donc ça c'est quelque chose qui est important aussi, de pouvoir placer ses respirations aussi. Ça c'est quelque chose qui va beaucoup beaucoup aider. Le souffle est très très important, donc ça va permettre aussi, voilà, d'accepter, d'être en conscience aussi de ce qu'on fait et de pouvoir communiquer pendant tout l'acte avec notre partenaire.
Et alors, du coup, enfin, de ce que j'entends dans ce que tu nous dis, que finalement, quand on souffre d'endométriose, on peut pratiquer le yoga seul, à condition évidemment donc de s'écouter. Mais est-ce que tu conseillerais quand même, si on peut, parce que j'imagine que les thérapeutes formés sont pas très nombreux, mais peut-être de se tourner vers un yoga thérapeute ou un ou une prof de yoga qui est formée à l'endométriose. Est-ce que tu sais s'il y en a de plus en plus et qu'est-ce que ça peut apporter quand on souffre de cette maladie et qu'on veut pratiquer le yoga au début?
Alors, je dirais oui et non. Alors, oui, d'aller voir, de toute façon, de se faire guider par quelqu'un, ça fait toujours du bien, plutôt que de rester chez soi à se morfondre, surtout quand on va pas bien, quand on est aussi dans des situations, hein, parce que l'endométriose peut vraiment être un handicap au quotidien. Il y a des personnes qui ont des douleurs de façon continue. Donc, quoi qu'il arrive, ça fera du bien de se faire guider. Des personnes formées à l'endométriose, alors, en termes de formation, il n'y en a pas vraiment qui existent. Hein. C'est considéré comme une maladie inflammatoire, donc ça va être lié à tout ce qui est inflammation chronique. Je pense que le mieux, par contre, ça se développe beaucoup, le yoga et l'endométriose, effectivement. Et je dirais que le mieux, c'est, ben oui, d'aller voir quelqu'un qui comprend en fait la pathologie. Au-delà de la formation, je pense qu'il comprend. Donc j'ai envie de dire, presque tous les profs pourraient conseiller ou guider quelqu'un qui a de l'endométriose, du moment où il y a de la compréhension, il y a de la bienveillance et de l'écoute par rapport à l'élève qui vient. Des personnes qui souffrent d'endométriose et qui sont profs de yoga, ben ça c'est le top, parce que elles connaissent parfaitement la pathologie et il n'y a pas de souci. Il y a de plus en plus d'hôpitaux qui proposent des sessions de table ouverte, qui expliquent un peu ce que c'est que l'endométriose et les fonctionnements. Donc j'invite aussi les profs, qu'ils soient yoga thérapeutes ou autres, qui s'intéressent à la pathologie et à mieux guider leurs élèves à y aller. Hein. C'est gratuit, donc il n'y a pas de souci. Tout ce qui est Endomind et EndoFrance ont des événements qui sont organisés partout en France, donc qui sont accessibles à tout le monde et les personnes peuvent y aller.
Oui, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, quand tu es prof de yoga, c'est toujours bien d'avoir un minimum de compréhension de ce genre de pathologie, puisque tu es amené à avoir forcément des élèves à un moment ou à un autre qui souffriront d'endométriose et qui vont venir dans ton cours. Et si tu ne connais pas le fonctionnement de la maladie, c'est difficile de lui donner des conseils pertinents, de lui proposer des adaptations, etc. Donc ça peut être effectivement une corde de plus à son arc si on a le temps de faire ça, quoi.
Oui, tout à fait, oui. Et il y a le, donc je crois que c'est Endo France qui organise, je pense que c'est au mois de mars, c'est le mois de l'endométriose, et donc il y a des conférences qui se font sur les réseaux sociaux, qui sont gratuites, il y a des lives, donc il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose dont on parle de plus en plus, et donc il y a vraiment de quoi faire en la matière, et ne pas hésiter vraiment à regarder sur les sites des hôpitaux. Je crois que c'est Endomind vraiment qui fait ça, qui référence un petit peu tous les hôpitaux où il y a des sessions, des cercles de parole autour de l'endométriose, des tables ouvertes, des conférences qui sont données. Donc c'est accessible à tout le monde.
Ça, c'est une piste intéressante. J'essaierai de trouver le lien peut-être et de le mettre en description de l'épisode. Alors, c'est vrai que le yoga, c'est une méthode d'accompagnement parmi d'autres et on voit tout ce que toi, ça t'apporte et tout ce que ça peut apporter à beaucoup de femmes qui souffrent de cette maladie. Mais je sais que le traitement, l'accompagnement de l'endométriose, il est vraiment pluridisciplinaire, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même un peu d'aller chercher tout ce qui peut nous aider et d'essayer d'explorer plein de pistes, puisque de toute façon, il n'y a pas une solution miracle, loin de là. Est-ce que toi, du coup, tu aurais d'autres conseils à donner aux femmes, d'autres approches qui te paraissent particulièrement intéressantes, en tout cas qui ont bien marché pour toi et que tu conseillerais d'explorer quand on est face à cette maladie ?
Oui, tout à fait. L'endométriose, hein, c'est une maladie qui est multifactorielle, hein, donc de l'approche... par le corps est très importante, ça c'est sûr, mais il y a l'aspect nutrition qui est vraiment important plus. Tout ce qui va être l'approche par la nutrition, hein, c'est une maladie inflammatoire, donc la naturopathie va beaucoup aider pour calmer l'inflammation. Moi je sais ce qui m'aide, c'est d'éviter les aliments qui aggravent l'inflammation. Donc je suis intolérante au lactose, donc du coup c'est bien, mais tout ce qui va être lait, gluten, voilà, peut-être de le diminuer, voire de l'éliminer de son alimentation.
C'est vrai que dans ce cas-là, effectivement, ça va être important d'être accompagné et pas de se lancer dans un régime sans gluten comme ça.
Exactement.
Parce qu'en plus, souvent, peut-être il va suffire de le limiter, pas forcément de l'éliminer complètement. Donc là, le conseil, ce serait peut-être d'être accompagné par
des naturopathes, une diététicienne, des coachs en nutrition fonctionnelle, enfin vraiment des personnes qui ont l'habitude, je dirais, de gérer les maladies inflammatoires chroniques. Et puis peut-être aussi de faire un bilan, hein, de voir aussi s'il n'y a pas des intolérances qui existent mais qui sont inconnues de la part des personnes qui souffrent de la pathologie. Ça, c'est aussi une chose. Hein, de toute façon, prise de sang obligatoire, comme dirait ma naturo. Ça, c'est pour l'aspect nutritionnel. Je pense que c'est vraiment très important de faire attention à ça parce que si une des origines de la maladie sont les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve vraiment partout, même dans la nourriture, ça va être peut-être de privilégier une alimentation bio si c'est possible. Ça, par contre, au niveau des données scientifiques, c'est montrer que tout ce qui est complément en vitamine D et oméga 3 atténue les inflammations. Donc, privilégier une alimentation à base de poissons gras comme des maquereaux, des sardines ou de prendre des compléments en vitamine D ou en oméga 3. Donc, même chose de le faire de façon accompagnée. Le magnésium aussi pour équilibrer la production de cortisol et donc de réduire le stress. Et qui permet aussi de limiter les contractions au niveau du muscle terrain. Donc ça, c'est des pistes. Et aussi, tout ce qui va être pour les troubles intestinaux, les nettoyages du foie à faire. En plus, en ce moment, c'est la bonne saison. Donc ça peut aider. Et le nettoyage du foie, c'est pour tout ce qui va être l'assimilation des nutriments pour le fonctionnement hormonal. Ça, c'est pour la partie alimentation. Puis après, il y a tout ce qui va être gestion de la douleur avec sophrologie, acupuncture, l'ostéopathe pour venir mobiliser et décoller les adhérences. Je dirais que c'est de la réflexo aussi qui peut aider en termes de thérapie alternative.
Oui, c'est intéressant de tester tout ça. Alors, avec évidemment, j'imagine après, un problème de budget qui se pose, parce que tout ça, c'est très intéressant, mais c'est des trucs qui généralement ne sont pas remboursés. Donc, si on trouve les techniques qui nous font du bien, mais il faut aussi avoir les moyens de se les offrir. Est-ce que tu sais s'il y a à ce niveau-là des astuces, des choses pour essayer d'être remboursé ou de payer moins cher, ou peut-être via des associations? Est-ce que tu connais des choses là-dessus?
Une chose qui est importante, c'est. en fonction du type d'endométriose qu'on a, parce qu'en fait, il y a des stades dans l'endométriose qui sont reconnus. Donc, il y a stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. C'est possible de reconnaître l'endométriose comme une affection de longue durée. Et donc, de fait, il y a beaucoup de prise en charge déjà au niveau, on va dire, médecine allopathique qui va être faite. Donc, c'est une prise en charge à 100%. Donc, déjà, ça, c'est si c'est un suivi, par exemple, par une diététique, je crois que les diététiciennes sont prises en charge par la sécurité sociale. Donc, ça, c'est des choses qui sont exploitables. Donc, pour que ça soit reconnu comme ALD, il faut voir son médecin généraliste et il faut en discuter avec le gynécologue qui nous suit, parce que ce sera le gynécologue qui va donner le go en disant oui, là, effectivement, il y a possibilité que ce soit reconnu comme une ALD et qui va faire un courrier en ce sens. Après, effectivement, c'est une question de budget. Et là, ben, peut-être qu'il y a des choix à faire. Moi, je sais que de toute façon, pour l'ostéopathie, c'est pas, ça va être ben, au niveau de la mutuelle. Est-ce que c'est des mutuelles qui remboursent ? Donc, de choisir aussi ces mutuelles en fonction de ça. Mmh. Et au niveau après des remboursements ou des prises en charge par des associations, malheureusement, ça, c'est pas encore le cas. Les associations recensent les praticiens qui sont sensibilisés à l'endométriose et qui vont aider, au moins pour avoir un bon référencement et d'aller voir les bonnes personnes, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas de prise en charge particulière.
Bah écoute, merci beaucoup pour cet éclairage et puis pour partager avec nous ton expérience et tes conseils. Je pense que c'est hyper enrichissant et notamment... pour des personnes qui souffriraient d'endométriose, mais qui en seraient, entre guillemets, au début de leur parcours avec la maladie et qui ont sans doute trouvé des pistes dans tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu peux nous dire, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de pratiquer avec toi ou si on veut suivre justement ton projet de proposer des cours à destination des femmes qui ont de l'endométriose ?
Oui, alors pour me retrouver donc en présentiel, en vrai, j'habite dans les Alpes-de-Haute-Provence à côté de Manosque, qui est la ville de Jean Giono, donc au soleil.
Ouais, t'as bien de la chance, c'est magnifique cette région.
Oui, c'est plutôt joli, puis il y a les collines, donc ça permet aussi de bien se balader ou de faire du vélo pour les gens qui aiment le vélo. Je dirais aussi que pour me retrouver donc, en ligne, ben, j'ai un site internet qui est le www.soyoe, donc c'est S-O-Y-O-E pour sophrologie yoga éthique. .fr, donc www.soyoe.fr, et sinon sur les réseaux sociaux à Déborah Soyoe, je suis présente sur Instagram et sur Facebook.
Ouais, je remettrai bien sûr tout ça dans la description de l'épisode. Je sais que tu as organisé aussi des retraites de yoga. Est-ce que tu le fais toujours ? Parce qu'il y avait notamment des retraites au Portugal qui me tentaient beaucoup, pas eu temps, malheureusement jusqu'à présent, mais est-ce que ça t'en a prévu pour 2023 ?
Alors pas encore, je suis un peu en train de voir mon planning parce que je suis en train de me former pour avoir mon CQP en fait, pour être coach, pour faire les formations, pour pouvoir donner du sport en fait sur prescription médicale, justement ouais. pour que ce soit pris en charge pour l'endométriose, les cours de yoga soient pris en charge pour l'endométriose. Et donc ça va être de janvier à juin. Donc, a priori, premier semestre 2023, il n'y en aura pas. Mais deuxième semestre 2023, j'espère en réorganiser. Et merci beaucoup, en tout cas, de me suivre et de parler de ça. Ça me fait plaisir.
Ouais, et puis, bah, donc, évidemment, on te suivra voilà, pour savoir quand tu auras ta formation et que tu pourras proposer les cours de yoga qui, en plus, seraient remboursés s'ils sont sur ordonnance. Là, évidemment, ce serait super... pour les femmes qui voudraient faire du yoga vraiment par rapport à leur endométriose de manière très ciblée, très adaptée à suivre du coup.
Oui.
Et ben merci infiniment Déborah pour cet échange.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour ne pas louper les prochains. On se retrouve en 2023. À très bientôt.